Le 6 minutes d'Éco FM. Reportage, témoignages, réactions. Tout de suite, l'invité et le sujet du jour.
Le 6 minutes de la rédaction à la mi-journée, juste après l'actualité nationale. Aujourd'hui, on va accueillir quelqu'un eh bien, que l'on connaît bien sur Éco FM, Hervé Boutelier. Mais cette fois-ci, on va l'accueillir en tant qu'auteur.
Exactement, Didier. Aujourd'hui, il nous livre son histoire personnelle dans son livre « Mon cœur n'était pas le seul malade » aux éditions Lumpen. Le récit d'un événement cardiaque soudain entre peur, solitude et résilience. Hervé nous raconte ce qu'on ne voit pas toujours derrière les murs de l'hôpital. Et il est avec nous par téléphone. Bonjour Hervé.
Bonjour Julien, bonjour Didier, bonjour à toutes et à tous. Il y a longtemps que je ne l'ai pas dit.
Ouais, on est très heureux d'être avec vous eh bien, à la mi-journée, Hervé, pour cet ouvrage, ce livre « Mon cœur n'était pas le seul malade ». On va revenir tout d'abord, hein, on va faire ce retour en arrière avec cette première douleur, Hervé. Comment vous l'avez ressenti? Là, on est vraiment dans le médical. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez compris sur le moment?
Alors, sur le moment, on comprend pas grand-chose, en fait, puisque ça va très très vite. Vous vous levez à 4h du matin parce que vous entendez un bruit dehors, vous regardez, vous ouvrez la fenêtre, vous refermez la fenêtre, et d'un seul coup, vous avez votre bras gauche qui est complètement paralysé et une grande torsion dans la poitrine. Le premier réflexe, je pense que c'est un réflexe animal, j'ai dit à mon épouse, appelle le SAMU. Le SAMU est arrivé en 5-6 minutes de temps, les pompiers en 3 minutes, puisque j'ai la chance de vivre dans la rue où se trouve la caserne des pompiers. Ensuite, tout va très vite. Vous avez 4-5 soignants, médecins, infirmiers, sapeurs-pompiers, et donc ça fait 4-5 soignants plus 5 sapeurs-pompiers, une dizaine de personnes dans votre pièce. Vous ne regardez qu'une seule chose, c'est votre épouse qui est au milieu de la pièce et qui ne comprend pas grand-chose de ce qui se passe. C'est un silence cathédral, on vous prend l'électrocardiogramme, on vous prend un tas de choses, et d'un seul coup on vous dit on vous emmène. Vous vous retrouvez dans une ambulance des pompiers avec les gyrophares bleus. C'est tout ce que je me rappelle, en fait, c'est gyrophare, la route très longue pour aller à l'hôpital, alors que l'hôpital est à même pas 10 minutes de chez moi.
Ce que l'on ne sait pas à ce moment-là, Hervé, c'est que votre vie vient de basculer.
Et voilà, c'est ça. C'est que ça, on ne le comprend pas parce qu'on ne sait pas ce que l'on a. Et je vous dis, c'est un silence de cathédrale. On ne sait pas. Personne ne vous explique rien. Donc, et vous arrivez aux urgences, vous êtes super bien accueillis aux urgences, et on vous barde de capteurs de partout. Ça fait des bip 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 et on ne vous dit rien. On vous fait des prises de sang, on vous met alors une dizaine de flacons et on vous dit résultat dans 3 heures.
Qu'est-ce qui vous a poussé après, maintenant, aujourd'hui, à écrire?
Pour me libérer, parce qu'en fait, vous prenez un choc psychologique. Et en fait, il y a plusieurs chocs psychologiques dans cette histoire. Parce que c'est pas le fait que vous soyez à l'hôpital, c'est la sortie de l'hôpital. À l'hôpital, comme je disais, au service des urgences, très bien. On vous explique rien, mais très bien, mais on vous dit, on vous garde, vous montez en cardiologie. Donc, je suis monté en cardiologie, où je rencontre un cardiologue de permanence et qui est assis. Alors, c'est une pièce pas plus grande qu'une chambre, en fait. Vous êtes allongé, donc vous êtes déjà infériorisé, vous êtes allongé dans un lit à barreaux. Vous avez le cardiologue qui est assis au fond de la pièce et qui vous dit vous savez pourquoi vous êtes là? Ben non. Il me répète une deuxième fois la question, vous savez pourquoi vous êtes là? Ben non. Et une troisième fois, vous me répète la question, je lui ai dit, docteur, si c'est pour un jeu, c'est pas très marrant, mais vous avez gagné. Et il me dit, de toute façon, on vous garde. Mais sans explication. Oui. On vous donne pas l'état de votre cœur, on vous donne pas ce qui se passe exactement. Et je lui ai dit, écoutez, ok, vous vous gardez, est-ce que je peux avoir une chambre individuelle? Et il me dit, non. Ben, j'ai dit, écoutez, je signe une décharge, je vais dans un autre hôpital. Et là, ils ont fait venir une infirmière, qui est soi-disant une infirmière psy, et qui se penche sur moi et qui me dit, monsieur, si vous signez une décharge, si vous sortez, vous êtes un homme mort. Et là, vous prenez un coup de massue. J'ai mon corps qui a fait comme une vague, vous voyez, comme les surfeurs qui traversent les vagues. Et mon corps a fait ça. Et là, je me suis pris un choc psychologique.
Oui.
Un vrai choc psychologique. Et vous avez cette dite infirmière, parce que je l'ai entendue ensuite dans le couloir, qui a dit, ma femme est arrivée entre-temps, qui a dit à ma femme, pour le garder, je lui ai dit qu'il allait mourir s'il sortait.
Oui. On a souvent, Hervé, pointé ces dernières années un manque de moyens dans les hôpitaux. Mais finalement, vous, ce que vous pointez, c'est un manque d'humanité en tout cas là où vous avez été pris en charge.
Oui, tout à fait, parce que cette même infirmière, je lui demande pourquoi on ne peut pas avoir une chambre individuelle, pourquoi je ne peux pas avoir des toilettes individuelles, la moindre des choses. Et elle me répond, vous savez, j'ai 75 à 80% des patients qui ont fait une crise cardiaque, qui ont été aux toilettes tout seuls et qui sont morts dans mes bras. Et là, vous reprenez un deuxième choc, et vous avez cette même infirmière qui un dimanche matin arrive en catastrophe, qui me dit, monsieur Boutelier, ça ne va pas. pas, on vous transfère d'urgence à 60. Donc j'ai prévenu votre femme. Mon épouse était en train de faire des courses dans un centre commercial et qui a tout lâché et qui est arrivée parce que l'infirmière lui a dit, si vous voulez voir une dernière fois votre mari, venez tout de suite. Vous vous rendez compte?
Ouais, tous ces chocs, donc, en fait, ce que vous pointez du doigt, ce sont tous ces chocs que l'on prend à partir du moment où on est pris en charge, en fait.
Voilà, c'est ça. Et vous partez sous le regard de votre épouse, votre fille, vos petits-enfants en ambulance SAMU, parce que c'était soit l'hélicoptère ou soit l'ambulance SAMU, l'hélicoptère pouvait pas venir. Donc pendant ce temps-là, on vous barre de capteurs, etc. On vous met dans une ambulance qui part avec les sirènes, les gyrophares et tout ce qui s'ensuit à Soissons, à l'hôpital de Soissons. On vous dit rien. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que c'est la dernière fois que je vois mon épouse, ma fille, mes petits-enfants? Et quand je suis arrivé à Soissons, comme là par hasard, je suis tombé sur une équipe médicale super sympa, dans une chambre individuelle avec des toilettes. Ouais. J'ai le cardiologue qui est arrivé 2 heures après, qui me dit, elle est où l'urgence?
Donc là, déjà, on redescend en termes de grade.
Là, vous tombez. Voilà, vous tombez.
Alors, c'est vrai que ces séjours à l'hôpital, c'est un peu la partie visible de l'iceberg, mais il y a aussi l'après. On va faire un petit saut dans le temps, c'est vrai, ce midi, parce qu'après, vous allez développer plusieurs sentiments, Hervé. La peur, la solitude, aussi les changements physiques et le regard des autres.
Voilà, c'est ça. C'est quand on pense que souvent que le plus dur est derrière, et derrière soi, une fois rentré à la maison, en réalité, c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. J'ai vécu plusieurs mois avec une angoisse permanente, avec la peur de mourir, la peur de manger, la peur de bouger, la peur de chaque sensation dans le corps. Je savais que mon cœur était suivi, mais mon esprit, il était totalement livré à lui-même. C'est-à-dire que le cerveau est fait de telle sorte que lui, c'était un danger permanent. Il s'est mis en danger permanent. Ouais. Il a pris un choc médical. Enfin, je tiens quand même à dire que le livre n'est pas là pour dénoncer, mais pour informer. Parce que je veux démontrer qu'après un choc médical, il y a toute une reconstruction psychologique essentielle et qui est souvent oubliée. En fait, on est livré à soi-même. Vous vous retrouvez avec 18 médicaments à prendre, avec un régime lipopituitique. J'ai même du mal à le dire parce que c'est tellement savant. Mais on ne vous explique pas ce que c'est. Oui. On ne vous explique pas. On vous dit pas, vous avez le droit de manger ça, vous n'avez pas le droit de manger ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ci, etc. etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'osez pas manger. Vous prenez les médicaments par habitude, 18 médicaments, matin, midi et soir. Et pour vous empêcher de penser, on vous donne un médicament qui a, je ne sais pas si je peux le dire à l'antenne.
Qui vous relaxe, quoi. Qui est censé vous relaxer.
Qui est censé, mais qui est plus que censé, en fait, parce que vous en devenez dépendant.
Et à quel moment vous avez pris cette décision d'écrire?
La décision, elle a été prise tout de suite, puisque je pourrais vous fournir la photo. Elle a été prise le lendemain de mon hospitalisation, parce que je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un instinct animal. Je ne savais pas si j'allais continuer à vivre ou pas, quoi que ce soit. Donc j'ai dit, il faut que j'écrive cette expérience. Mon épouse m'a pris en photo en train d'écrire le premier chapitre le lendemain de mon hospitalisation.
Ouais, là, il fallait impérativement évoquer, parler, transmettre cette expérience.
Voilà. Et surtout, dénoncer cette infirmière qui n'a pas la façon de faire pour rassurer les gens, en fait. Et je d'informer en disant, ne les écoutez pas, en fait. On vous dit, vous avez ça, prenez-le sérieusement, mais demandez un autre avis médical, demandez à ce que l'on vous l'explique. Et puis, dans le livre, ce que je démontre, c'est l'importance du soutien, et notamment, pour moi, celui de mon épouse, de mes enfants, mais il faut un soutien énorme, parce que aujourd'hui, mon message est simple, survivre ça ne suffit pas, il faut réapprendre à vivre.
Ouais. Alors aujourd'hui, Hervé, on est en mars 2026, la question peut paraître simple, mais comment ça va? Je sais que vous l'avez confié, vous êtes suivi par un psychologue 2 fois par mois. Est-ce que tout cela vous aide? Où en êtes-vous dans ce parcours de l'après?
Le psychologue, c'est une initiative personnelle, parce que, en fait, je ne pouvais pas tout faire subir à mon épouse. Mon épouse m'écoutait énormément parce qu'on a besoin de parler, on a besoin de si vous voulez, elle a vécu des moments d'angoisse parce qu'avec les médicaments, qui vous donnent des moments de panique, c'est ce que j'explique dans le livre, obligé de me lever à minuit, 1h du matin pour aller faire un tour dans l'an, pour respirer, pour prendre l'air, pour faire de la marche, alors qu'on était en plein hiver. Vous voyez pas, en pleine nuit, en plein hiver, j'étais couvert de la tête aux pieds. marcher. Ouais. Il faut que j'aille marcher. Et mon épouse, à minuit, 1h du matin, venait avec moi parce qu'elle voulait pas me laisser seul, parce qu'elle savait pas ce que j'avais exactement, etc. Et donc, parce que quand je suis sorti de l'hôpital, il faut savoir que je ne savais pas du tout ce que j'avais. Je suis sorti de l'hôpital au mois de novembre. J'ai su exactement ce que j'avais au mois de mars.
Alors, quel a été le diagnostic final, Hervé ?
Un syndrome coronarien aigu avec une insuffisance cardiaque.
Est-ce que, à un moment donné, les proches ne devraient pas être également pris en charge ? Je parle bien évidemment côté psychologique, en fait.
Oui, mais moi j'ai la chance d'avoir une épouse qui est très très forte, ouais. qui sait trouver les mots comme.
Mais enfin, parfois on sait trouver les mots pour les autres, mais en soi on a il y a des situations difficiles, quoi, en fait.
Bien sûr, elle a vécu une situation très difficile, mais il y a des choses que je ne pouvais pas, je voulais pas la contraindre, je voulais pas l'embêter avec ça, donc j'ai pris d'initiative personnelle, j'ai pris un psychologue qui, ce psy a trouvé les mots et m'a fait des images avec ses mains, etc., en me disant voilà ce qui se passe exactement.
Ouais. Hervé, on est quasiment à la fin de cette interview. Quel petit mot que vous pourriez donner à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent pour tout simplement les amener à lire votre ouvrage ?
Alors, si j'ai le temps, 5 conclusions, mais c'est des conclusions de 2 lignes. La conclusion 1, c'est émotionnelle et humaine. C'est-à-dire, on peut survivre à un problème cardiaque, même si on ne soigne pas l'esprit, on reste enfermé dans la peur. Moi, j'ai mis des mois à comprendre qu'il fallait réapprendre à vivre. Et aujourd'hui, c'est un message que je veux transmettre à tous. Ma conclusion numéro 2, c'est un message universel. D'accord, ce livre parle de moi, mais il pourrait parler de milliers de personnes, parce qu'après l'hôpital, beaucoup se retrouvent seuls. Il est temps de dire que la guérison, ce n'est pas seulement physique, elle est aussi humaine. Ma troisième conclusion, je vous ai vraiment tout préparé, c'est l'impact fort, c'est-à-dire on m'a sauvé le cœur, mais j'ai dû sauver mon esprit moi-même. Et c'est ça la vraie bataille dont on ne parle jamais. Mon avant-dernière conclusion, c'est un message d'espoir. Aujourd'hui, je vis, pas comme avant, mais autrement, mais avec plus de conscience, plus de prudence, mais aussi plus de valeur pour chaque instant, et ça, c'est une victoire. Et ma dernière conclusion, c'est un appel direct aux auditeurs. Si vous traversez une épreuve similaire, ne restez pas seul, parlez, faites-vous aider, posez des questions, parce qu'après la peur, il y a encore la vie, et elle mérite d'être vécue pleinement.
Mon cœur n'était pas le seul malade aux éditions Lumpen. On va vous mettre le lien sur notre site internet pour vous procurer cet ouvrage signé Hervé Boutelier. Merci infiniment de nous avoir couché ces mots également via l'antenne d'Eco FM. On vous souhaite tout le meilleur, Hervé, bien sûr, pour la suite, et on espère vous retrouver très très vite.
Avec plaisir.
Retrouvez cet entretien à l'heure de votre choix en podcast sur echo-fm.fr.